Hey, avant de démarrer ce nouvel épisode, il faut que je vous présente ma nouvelle application Sport Science Test. Saviez-vous que pour mesurer la puissance, les équations que nous utilisons obtiennent 2% d'écart de précision avec des plateformes de force ? Saviez-vous que l'algorithme de Sport Science Test permettait simplement en filmant le mouvement de savoir quels muscles étirer ou renforcer pour l'optimiser ? Que vous pouviez tester l'endurance de dizaines de joueurs à la fois sans jamais vous tromper ? Et ce n'est qu'un tout petit aperçu de ce que sait faire Sport Science Test pour seulement 99€ par an et de toute la science et la méthodologie que nous avons mise dedans avec les équipes ABD Digital. Alors n'attendez surtout pas pour la tester, car l'essai est gratuit. Bon épisode à tous.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode ABD Podcast. Je suis hyper content de vous retrouver tous autour d'un sujet brûlant, le soulevé de terre. Cette fois-ci, faut-il le faire avec le dos rond, le dos plat? Les esprits se sont embrasés littéralement sur la toile depuis quelques mois, et notamment sur mon compte Instagram lorsque j'ai pris la parole sur le sujet. Alors, ni une ni deux, j'ai sauté sur l'opportunité et j'ai invité non pas un spécialiste, mais deux pour confronter les points de vue et chercher à distinguer le grain de l'ivraie. Avant de plonger dans le débat sur le soulevé de terre, je vous propose de vous abonner, de partager au maximum cet épisode parce que je pense qu'il pourrait bouleverser certaines pratiques. Si vous avez au moins un de vos amis qui pourrait bénéficier d'un soulevé de terre un petit peu optimisé, c'est le moment de lui partager cet épisode. Je reçois aujourd'hui Gaïs Gelaya, Gaïs aka Geek & Fit.
C'est vrai. Merci,
c'est toi.
Merci en tout cas de me recevoir. Ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'ouverture d'esprit, de pouvoir discuter de ces choses-là. Et j'espère qu'on va faire peut-être un peu avancer le débat en France.
De l'ouverture d'esprit sur cette antenne, il y en a. On est toujours open à la discussion, à l'innovation, à l'évolution. On lit beaucoup, on lit les études, on les partage. Et dans la bienveillance, on aime recevoir les gens intelligents. Donc, merci d'avoir pris contact et d'avoir rebondi sur l'opportunité sur ce débat. Je suis hyper content de te recevoir. Donc, Geek & Fit, hein, on va garder ton blaze des réseaux. C'est l'ordre des choses désormais. Geek & Fit qui est, on va dire, l'avocat, un peu malgré toi d'ailleurs, l'avocat du dos rond. Sujet qui s'est enflammé un peu sur un ou deux de tes postes. Et puis, du coup, tu as décidé de creuser un petit peu ça, puisque toi, dans ta pratique, Tu aimes à pratiquer un enroulement, on le définira tout à l'heure, mais tu aimes à pratiquer un enroulement dans ta pratique du soulevé de terre.
Oui, à peu près, c'est ça. En fait, j'ai eu des contenus qui ont, on va dire, explosé entre guillemets là-dessus. Et je me suis dit, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en fait, aller lire toute la littérature sur le sujet, en tout cas l'essentiel de ce que j'ai pu trouver, et puis essayer de faire état de la science à ce sujet-là, avec ma compréhension évidemment des choses et mon interprétation des faits. Mais je pense que, de façon générale, c'est toujours cool d'apporter un petit peu du grain à moudre à tout le monde, en fait.
Hyper intéressant. Et vraiment, c'est ce qui nous permet de grandir en tant que pratiquant, en tant que coach aussi. Et on sait que dans les gens qui nous écoutent, il y a un petit peu de tout ça. Il y a des pros, il y a des sportifs éclairés qui aiment réfléchir, qui aiment mieux comprendre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai aussi invité Stéphane Kenneck. Stéphane, c'est cool de prendre de ton temps. Je sais qu'il est précieux. Stéphane est chirurgien, spécialiste du dos. Ouais. Donc, tu en vois quelques-uns, des gens qui se sont fait mal au dos.
Exactement. Sportif ou pas sportif. Et alors, moi, je précise que je ne fais pas de soulevé de terre, si ce n'est les jouets de mes enfants. Mais je vois les résultats, effectivement, de toutes les pathologies du dos. Et
tu mets les mains dedans de manière très concrète. On n'est pas sur de l'illustration, on n'est pas sur de l'interprétation externe du mouvement ou de l'extrapolation. Vraiment, il a les mains dedans. Et c'est pour ça que je trouvais ça très intéressant de l'avoir autour de la table aujourd'hui. Et vraiment, je te remercie de prendre du temps pour venir discuter avec nous. Alors évidemment, le rythme de l'épisode est tout trouvé. On va avoir une première partie où on va rappeler pourquoi historiquement, le soulevé de terre dos plat, et on va le définir dos plat parce que c'est un vrai sujet, et cristallise autant de passion et de conservatisme. Pourquoi les anciens du gaz, si je puis dire, ils s'accrochent à cette forme de pratique de manière extrêmement forte, comme un bastion de prévention absolue. Et puis de l'autre, avec Geek & Fit, on va voir quel est le courant actuel qui pousse une alternative à ça, où on enroule plus le dos, y compris à des charges élevées d'ailleurs. Et donc on va essayer de distinguer le grain de livret et voir un petit peu ce qu'il y a à retenir de toutes ces expériences. Alors lançons-nous, justement, il y a des contraintes mécaniques, on le sait, quand on travaille comme ça sur une charge distale qu'on va chercher à soulever à bout de bras, avec un dos plat, et ben on espère une meilleure mécanique. Mais est-ce que c'est totalement vrai, ça ?
Alors déjà, on va définir, c'est pas vraiment un dos plat. Ça fait longtemps aussi l'objet de débats en chirurgie, débats assez passionnés, assez houleux, notamment entre des écoles américaines et françaises. Et on va tirer un petit cocorico, puisque c'est un peu les Français qui ont pu rétablir la vérité de ce qu'on appelle un dos équilibré. Et toute la notion du dos, c'est que c'est un vrai état d'équilibre. L'homme, il s'est mis debout en développant certaines parties de sa colonne vertébrale, certaines parties musculaires, et notamment les grands fessiers. Et ça, c'est quand on analyse un peu de phylogénèse. Et les courbures se modifient au fur et à mesure de notre croissance. Et les courbures de la colonne vertébrale, c'est des courbures qui sont bien organisées autour de certains angles du bassin. Donc il faut toujours comprendre qu'il y a une vraie corrélation entre le bassin qui est fixe, qui va être défini notamment par ce qu'on appelle une incidence pelvienne, qui est l'ouverture du bassin. Ça, c'est quelque chose qui est fixe, qui est propre à chacun de nous. On ne peut pas la modifier. On peut éventuellement en chirurgie, mais alors, en fait, non. Et la courbure lombaire, et après le reste des courbures va s'adapter pour former un dos équilibré.
C'est intéressant, parce que là, on a déjà deux énormes concepts qui sont hyper importants à garder à l'esprit pour les gens qui nous écoutent. Le premier, c'est que le dos plat est un abus de langage. Déjà, exactement. C'est une exagération méthodologique qui déjà cristallise des débats absurdes, puisqu'on ne cherche pas un dos plat. On cherche un dos
équilibré.
Équilibré. Alors, un dos équilibré qui donc respecte les courbures naturelles.
Exactement.
Et ces courbures naturelles, elles viennent d'un autre étage articulaire qui ne rentre presque jamais en ligne de compte dans les débats passionnés auxquels je faisais référence en introduction. C'est quand même assez dingue. C'est qu'on fait comme si le dos était coupé du reste, et notamment du centre de la problématique, qui est le bassin.
Le bassin, complètement. Parce que on sait que les gens qui se font mal au dos, il y a une part effectivement de composantes discales, il y a une part de pathologie articulaire, parce que l'articulation du dos, c'est quelque chose de très complexe. Et puis, il y a aussi une énorme part de défaut de souplesse et de renforcement de toute la musculature postérieure, les ischio-jambiers, le biceps moral, les fessiers, et puis de la musculature abdominale profonde, les transverses, mais aussi les psoas qui vont aller après sur les cuisses. C'est vraiment cet équilibre qui est très important. Et ça, c'est un gros défaut. Les gens travaillent, ou me disent en consultation, on travaille le dos, ils ne travaillent pas les membres inférieurs. Et quand on ne travaille pas les membres inférieurs, et quand on ne travaille pas l'extension de hanche, eh ben on est perdant, parce qu'on n'a aucune capacité d'adaptation. Donc c'est pour ça que, du coup, moi je me suis un peu plongé dans les vidéos, j'ai regardé comment on fait les soulevés de terre, etc. Et en fait, le travail d'extension de hanche, moi j'ai quasiment eu l'impression que c'est le point clé du soulevé de terre, c'est réellement de travailler le biceps fémoral, de travailler le fessier et de maintenir un dos plutôt équilibré.
Merci de rappeler ça, que c'est un mouvement d'extension de hanche.
Ah oui.
Et avant toute chose, c'est un mouvement d'extension de hanche. D'ailleurs, en préparation physique, puisque moi c'est vraiment mon ADN, on l'utilise pour générer des niveaux de puissance importants, transférables dans l'horizontalité. Donc c'est pas quelque chose qu'on utilise par exemple pour sauter plus haut, le soulevé de terre en prépa physique pour simplifier, quelque chose qu'on va utiliser pour sauter plus loin. Donc c'est vraiment un mouvement de hanche. Et déjà quand on aborde le mouvement par cet angle-là, eh ben déjà, je trouve que ça jette une autre lumière sur le débat qu'on ouvre aujourd'hui.
C'est quelque chose aussi qui nous manque en français comme terme. En anglais, ils ont hinge, oui. Le hip hinge. En français, on l'a pas vraiment. Et du coup, c'est vrai qu'on a du mal souvent à se projeter parce qu'eux, ils disent bon, bah, un mouvement en fait, où on va avoir de la poussée on, type squat, et puis un mouvement où on va avoir du hinge type soulevé de terre. Et ils disent que globalement, avec ces deux gros mouvements polyarticulaires, on peut faire globalement travailler toute la musculature du bas du corps. Mais comme nous, on n'a pas le hinge, qu'on ne comprend pas vraiment ce que ça veut dire que le hinge, c'est vrai que ça peut porter à débat.
D'ailleurs, on ne comprend même pas ce qu'est une flexion ou une extension de hanche. La plupart des gens, tu leur dis, est-ce que tu peux me réaliser, s'il te plaît, une flexion de hanche?
Oui.
Et en général, ils vont enrouler le dos.
Exactement. Alors, la flexion de hanche, c'est ce qui... Quand on va toucher le sol avec ses mains, ben, on travaille énormément dans ses hanches. Et puis après, on amène en fait une vraie flexion, relaxation du dos. C'est-à-dire qu'on va dérouler le dos. Bah si on le fait en consultation, on dit aux gens, allez toucher le bas. Alors du coup, ce n'est pas interdit d'aller toucher le sol avec ses mains. On peut ramasser des objets. Mais...
Ah, excuse-moi de te couper, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les ayatollahs du dos plat, parce qu'il y en a, hein, je veux dire, tu sais que je suis plutôt sensible à un dos contrôlé, moi, tu le sais, Gaïs. Mais... Y a des ayatollahs du dos plat, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on n'avait même plus le droit d'attacher nos lacets.
Oui.
Quand même, on a une chaîne postérieure qui est dessinée pour qu'on arrive quand même à faire une fermeture transjambe.
Ouais.
Donc, y a une différence déjà dès le départ entre faire des soulevés de terre hyper lourds, le dos rond, déjà dans la discussion, et on y viendra après, et faire des mouvements de la vie de tous les jours dans toutes les amplitudes que nous autorise le corps.
Ouais.
Et comme tu le dis, c'est absolument pas interdit déjà pour commencer d'aller se gratter les doigts de pied sans plier les genoux.
On peut le faire. Et alors de la même façon, quand on fait ça, on sollicite énormément nos hanches. Quand on interroge quelqu'un pour une pathologie de la hanche, une arthrose de hanche, les questions qu'on lui pose, c'est des questions de la vie quotidienne. Est-ce que vous arrivez à vous couper les ongles de pied? Est-ce que vous arrivez à mettre vos chaussettes, à nouer vos lacets?
Ah, c'est drôle ça.
Et c'est des gestes de la vie quotidienne parce que c'est une discipline fonctionnelle qu'on fait. Et c'est intéressant, et on le fait. Pourquoi est-ce qu'on demande aux gens de se pencher vers l'avant? Oui, on peut dépister des scolioses, etc., parce qu'on va voir s'il y a des gibbosités. On va aussi tester un petit peu, est-ce qu'ils sont douloureux? En gros, est-ce que la douleur devient discogénique? Parce que effectivement, malgré tout, quand je m'enroule, quand je vais aller vers la flexion lombaire, je vais au début solliciter quand même le tissu discal.
Et oui.
C'est sûr, c'est la chaîne de pression, elle est répartie telle qu'elle. Et puis après, bah, y a une étape où on a vraiment une relaxation des muscles postérieurs. Et c'est là où on sollicite toutes les parties ligamentaires, postérieures, articulaires. Et on peut tester un petit peu l'étirement et on peut tester certaines douleurs. Donc ce n'est pas interdit. Ça, on sait que ça va solliciter certaines zones. Après, le tout, c'est de contrôler. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aussi après.
Tu veux peut-être réagir là-dessus Geek and Fit.
j'ai pas spécifiquement à réagir. Je trouve pour le moment que tout me semble très très clair et je suis d'accord surtout. Je voulais juste peut-être, pas préciser, mais abonder en ton sens. C'est-à-dire que maintenant on est. Il y a eu pendant un très long moment des gens qui ont dit que carrément, effectivement, ça devenait très difficile même de soulever des objets pas lourds sur le sol ou des choses comme ça avec le dos rond. C'était vraiment pas bon pour la santé, etc. Et maintenant, on a quand même beaucoup les kinés qui ont...
On en revient, ouais, ça y est.
Il y a beaucoup un discours parmi les kinés qui dit non, mais en fait, soulevez des trucs un peu avec le dos rond, soyez mobile, etc. Parce que le problème, c'est que si vous évitez tout le temps ça... on va se retrouver non seulement avec des structures qui ne sont pas forcément renforcées, mais en plus une peur du mouvement, donc des structures qui vont encore plus ne pas être renforcées, une forme de kinésiophobie, des signaux d'alerte qui vont créer de la douleur, etc. Et c'est peut-être pas top. Donc déjà, d'un point de vue, moi, ce que je trouve qui est bien qu'on soit d'accord là-dessus, c'est qu'il faut absolument dire aux gens de ne pas se limiter dans la vie quotidienne et de ne pas se dire qu'il faut absolument qu'ils aient un dos entre guillemets plat, même si on vient de dire que ce n'était pas le cas, et qu'ils se laissent vivre en fait. Et ça déjà, c'est un gros progrès, moi je trouve.
Non, hyper intéressant. Alors c'est vrai qu'on avance beaucoup là-dessus dans l'esprit commun, je pense. Maintenant, je l'entends encore. J'entends encore des gens qui disent il doit ramasser un truc, garde le dos droit, fléchis. Genre, bon. C'est lâcher la proie pour l'ombre, c'est progresser en squat, en mobilité, et régresser encore une fois en hinge, en fermeture de hanche. Donc, hyper intéressant.
Et je rajoute juste un petit point sur l'intérêt pour nous, en clinique, de la flexion lombaire. La flexion lombaire, elle a par contre un intérêt, c'est de dépister, alors ça, on va le voir dans le côté pathologique, ce qu'on appelle des instabilités de la colonne vertébrale. Ça, c'est intéressant aussi. quand on veut faire, parce que j'ai vu aussi quelques, du coup sur les différentes vidéos, j'ai vu des clichés. Les clichés en flexion lombaire, on les fait dans nos bilans préopératoires. Et un vrai cliché en flexion lombaire, si on veut qu'il soit contributif, il est fait non pas en charge, mais il est fait en décubitus latéral, donc patient couché sur le côté, en s'enroulant en position fœtale. On neutralise complètement l'action musculaire. En revanche, là, on va solliciter tout ce qui est système capsulaire, articulaire, système ligamentaire. Et là, on va observer si oui ou non, il y a une pathologie d'instabilité, d'hypermobilité angulaire ou antéro-postérieure entre les vertèbres. Ça va nous intéresser, nous, d'un point de vue purement chirurgical, à savoir si un étage est instable et s'il nécessite d'être fusionné. Ou si, par exemple, j'ai dans l'idée de mettre une prothèse lombaire à quelqu'un, est-ce que oui ou non, ma prothèse lombaire, j'ai le droit de la poser, ou je fais une fusion, une arthrodèse. Donc, la flexion lombaire nous aide aussi, par contre, en clinique, à dépister, quand elle est en excès, quand elle est non contrôlée, une instabilité. Donc, c'est en fait toutes les notions de vrai cône d'équilibre. Et à un moment donné, on sort du cône, c'est pathologique, mais quand on est dans le cône, ça va.
Ouais. La notion de... T'as lâché aussi une info importante, la notion de contrôle. Quand elle est contrôlée ou quand elle est non contrôlée, là aussi... C'est un distinguo très très important à faire dans les définitions, et on y viendra un petit peu plus précisément quand on va aller plus loin dans la définition de ce qu'est le dos rond. Et ça, on te le laissera tout à l'heure. Gaïs, restez avec nous pour écouter notre définition du dos rond. C'est quoi le dos rond? Mais déjà, on est en train de spoiler un peu le truc en disant attention, la notion de contrôle, c'est important. Et on parle peut-être plus de la même chose, et des fois, finalement, on était d'accord. Donc ça, c'est vraiment essentiel. Alors du coup, ma question, elle est simple. C'est Okay. Une fois qu'on a dit ça, alors de quoi on a peur? De quoi on a peur quand on coach depuis 20 ou 30 ans les débutants, et y compris les performeurs d'ailleurs, sur une école du dos où on va insister, non pas un dos plat, donc on va revenir sur une autre appellation qu'on va consacrer, qui va être celle du dos contrôlé, du dos actif en tout cas.
De quoi on a peur? On a peur des contraintes répétées. Alors, effectivement, on a peur des contraintes répétées parce qu'on sait que les disques supportent une pression. On n'a pas idée de ce qu'un système discal ou un système discoligamentaire d'un système capsulaire est capable de supporter comme pression. C'est des centaines et des centaines de kilos. C'est-à-dire c'est colossal. Là, on est tous les trois assis. Globalement, quand on est tous les trois assis, on met une pression sur nos derniers disques lombaires qui est colossale, qui est à quasiment trois fois notre corps.
Si je peux me permettre d'intervenir, parce que je trouve et j'ai envie d'abonder en ton sens, c'est que un truc que j'aimerais bien que les auditeurs retiennent, c'est que les disques ne sont pas fragiles. C'est-à-dire que c'est un truc, parce que j'aimerais bien le dire de sorte à ce que les gens n'aient pas peur de leur dos. Et ce que j'avais vu comme analogie, peut-être que tu me rejoindras là-dessus, c'est que plutôt que de voir en fait les disques comme des choses fragiles, on pourrait les voir comme des pneus avec un chewing-gum dur à l'intérieur, plutôt que de les voir comme quelque chose qui est de l'ordre du disque gélatineux avec... Ouais,
c'est exactement. Alors, c'est l'image que je dessine quand j'explique à un patient une hernie discale ou une discopathie. Un disque, c'est un anneau fibreux. On va dire, c'est globalement un peu comme un ménisque. C'est un anneau fibreux. Là aussi, j'ai vu que dans les débats, il y avait la question de vascularisation pardon, ou non. C'est faiblement vascularisé, ça l'est. Mais par contre, ça a un potentiel de dégénérescence. Ça ne se régénère pas, c'est-à-dire que régénérer au sens redevenir jeune, ça ne fait que s'user. Malheureusement, c'est un capital que l'on a et qui fait que s'user du fait des contraintes de la vie. Et après, ce disque, c'est un anneau fibreux et au centre, il y a un noyau gélatineux qui a une mobilité et qui est là pour supporter nos contraintes. Le centre de mécanique des vertèbres, c'est le tiers postérieur. Donc les contraintes, effectivement... Il y avait plein de questions. Est-ce que les hernies, ça va souvent vers l'arrière? D'une part, c'est logique, parce que mécaniquement, ça va forcément vers l'arrière, parce que c'est le centre de rotation. Et d'autre part, c'est que c'est derrière que c'est important, parce que derrière, il y a des nerfs, et devant, il y a pas grand-chose à comprimer, puisque dans le ventre, il y a du mou. Donc, une hernie discale qui va devant, d'une part, c'est rarissime, et puis d'autre part, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Derrière, il y a des nerfs. Attention. Là aussi, je rappelle, une hernie discale, c'est quelque chose qui n'est pas toujours symptomatique. Ça peut l'être, ça peut ne pas l'être, ça peut guérir. Quand ça guérit, ça ne se remet pas dedans. Je précise aussi, parce que ça aussi, il y a des petites... il y a des fausses idées, ça ne rentre jamais. Hein. C'est comme un tube de dentifrice, ça ne rentrera jamais dedans. Mais ça dégénère parce que le corps, il n'est pas bête. Le corps, il voit un morceau de noyau sortir de son disque. Et il se dit, celui-là, je vais le désagréger. Donc, dans plus de 80% des cas, ça se désagrège. Mais par contre, votre disque, bah, il suce quand même un petit peu parce qu'il a des contraintes.
Donc ça, c'est un point important quand même, hein, qu'il faut entendre, hein, qu'il faut qu'on mette sur la table. C'est que c'est ce qui nourrit la peur. C'est oui. qu'il y a beaucoup de pathologies dans la vie. D'ailleurs, oui. il y a beaucoup de pathologies sur le dos. On parlera d'autres pathologies, même si l'hernie discale est sans doute la plus populaire, la plus connue. Cette pathologie a la particularité quand même d'être irréversible.
Oui.
Et ça, il faut quand même l'entendre. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il y a autant de résistance sur ce thème-là et qu'il nous faut, nous, éducateurs, enfin moi, éducateur, mettre en garde les gens sur certaines pratiques parce que quand on se fait une entorse de cheville, on va récupérer dans une certaine proportion. Quand on se fait une déchirure musculaire même, dans certaines proportions, on arrive à récupérer parfois complètement. Là, c'est un sens unique. Hein. Une fois qu'on a tout cassé, on a tout cassé.
Oui. Le disque dégénère. Oui, on va s'adapter un petit peu. L'adaptation ne veut pas dire guérison. C'est-à-dire qu'un disque qui s'adapte, eh bien, il va perdre de la hauteur, il va perdre de l'angulation, ce qu'on appelle de la lordose discale, parce que le disque il est ouvert. Et puis petit à petit, ce disque va, on va parfois parler, aller jusqu'au collapsus discal. C'est-à-dire que vraiment, le disque, c'est le disque aging. Donc, si vous regardez les vidéos en anglais, ils vont vous parler de disking aging. C'est de l'usure. Et à un moment donné, cette usure va provoquer aussi d'autres douleurs, des hyperpressions articulaires. Il faut se dire que l'articulation derrière, s'il y a moins de surface devant, moins de hauteur, derrière, elle est plus en contrainte. Et puis, c'est des douleurs qui vont syphoser ce segment-là. Donc, on va avoir une compensation au-dessus. Les autres étages, ils vont dire, moi, je veux garder mon dos dans une position d'équilibre. Donc, je vais creuser un petit peu plus au-dessus. Et je vais aussi pouvoir provoquer des lésions au-dessus.
Mmh. Ouais, après, on rentre vraiment dans un cercle vicieux oui. duquel on risque d'avoir du mal à sortir. Donc, il faut être prudent, progressif dans tout ce qu'on va faire. Mmh. Parce que là, le prix à payer est quand même très élevé.
Oui.
Ok. On a peur de l'hernie discale. C'est évidemment la première menace. C'est le grand requin blanc.
C'est ça.
Voilà. Mais il y a plein d'autres prédateurs.
Il y a plein d'autres pathologies. Alors effectivement, on peut se faire un lumbago. Mais je peux me faire un lumbago sur n'importe quoi. Le lumbago, c'est quoi? C'est simplement que le dos, il réagit. Il dit contracture musculaire pour bloquer. Un lumbago, ça passe.
Je peux me faire une hernie discale sur n'importe quoi, d'ailleurs.
Je peux me faire une hernie discale sur n'importe quoi. Je peux me faire une hernie discale en toussant, en éternuant, parce que quand on éternue, il y a une hyperpression lombaire, une hyperpression dans le disque qui est colossale. Et souvent, c'est ça, la consultation, c'est « mais j'ai rien fait, docteur. Je me suis tourné, bam, j'ai eu mal dans la jambe. » Parce que la hernie, c'est la douleur dans la jambe. Hein.
Oui.
Ça irradie,
Ça irradie.
C'est la sciatique.
C'est la sciatique, c'est l'interrupteur. Sciatique ou cruralgie, suivant le niveau, mais c'est l'interrupteur. J'allume et c'est le circuit électrique. Ça peut faire mal au dos. Alors attention, on peut avoir des douleurs hernières parce que ça va mettre en tension toutes les structures ligamentaires qui courent derrière le disque.
Oui.
Où il y a
des compressions locales sur les.
Ouais. Voilà, c'est des nocicepteurs, c'est des récepteurs à la douleur. Et puis après, la sciatique, parce que j'appuie sur le nerf.
Ouais.
Mais il y a plein de pathologies. On va schématiser, ça va être la hernie, la douleur musculaire, les douleurs articulaires moins concernées par le dos rond parce qu'elles sont moins en contrainte, et puis les discopathies dégénératives. Et dégénératives, ça sous-entend que ça prend un peu de temps.
Alors, quoi qu'il arrive, c'est peut-être bien de rappeler aussi qu'on n'est pas sur, contrairement à ce qu'on présente souvent, sur des pathologies aiguës, spontanées, sur le soulevé de terre, je reviens sur notre débat, où d'un seul coup, pop, ça sort comme ça.
Ben oui, ça peut, mais c'est l'exception. Par contre, oui, la question, c'est comment est-ce que je fais mon mouvement pour prévenir et éviter une usure à long terme.
Et c'est l'usure qui va faire que ça pop à un moment donné.
Exactement.
C'est une dégénérescence du disque et des structures qui va, à un moment donné, favoriser cette
survenue, soit de hernie, soit de discopathie.
Ouais. Donc ça peut sembler soudain, mais c'est quelque chose qu'on a gentiment préparé au fil du temps et des répétitions inadaptées.
Et si je peux me permettre juste un dernier point important aussi pour comprendre, c'est simplement qu'on n'a pas tous les mêmes courbures lombaires, ça c'est important, on n'a pas tous le même état d'équilibre. Et effectivement, il y a des dos qui sont plus ou moins lordotiques, plats entre guillemets, c'est-à-dire avec des faibles courbures, des faibles incidences. Et eux n'auront pas les mêmes types de pathologies et n'auront pas non plus la même capacité d'enroulement et de flexion lombaire. Ça, c'est aussi important.
On n'est pas tous égaux devant l'adversité.
Eh bien, on n'est pas tous égaux. Voilà. Et là, ça a été classifié. Et vous regarderez les classifications de Roussouli, qui est un Lyonnais, et qui a parfaitement classifié ça. C'est la classification universelle pour nous qui définit l'état d'équilibre du dos.
Et ça, c'est intéressant. On vous mettra ces ressources pour que vous puissiez vous plonger dedans et vous forger votre propre avis dans les ressources de l'épisode. Évidemment, on se dit que ça, c'est un point important et tu vas réagir là-dessus, Geek and Fit, parce que évidemment, si on dit qu'on n'est pas tous égaux devant l'adversité, il y a une part, parce que dans les débats, souvent, on dit « Ah, mais c'est la génétique, on ne va pas mettre ça tout derrière la génétique. » Ben, quand même, il y a une part de génétique qui est indiscutable et qu'il faut prendre en compte. Et ce n'est pas parce qu'il y a certaines personnes qui sont incapables de faire certaines choses que d'autres ne sont pas capables de le faire. Mais c'est réciproque. Et donc ça, c'est quand même une mise en garde que j'aimerais envoyer aux gens aujourd'hui. Attention, si votre champion de cœur fait ça sur Internet, vous ne savez pas quelle part de talent et de prédisposition il a pour faire ça, d'une part. Et d'autre part, vous ne savez pas quelles sont les étapes qui l'ont conduit à ce niveau mécanique-là. Et donc, évidemment, à reproduire chez soi, mais peut-être sous la supervision d'un adulte compétent. Et on en arrive du coup à la deuxième partie, Geek and Fit, sauf si tu veux compléter un petit peu.
Tu auras
l'occasion, bien sûr, de rebondir au fur et à mesure. Mais maintenant, donc voilà, on a ce courant qui est là, qui dit, attention, c'est vrai, on a été prudent, peut-être trop.
c'est un peu l'idée vis-à-vis de ça, en tout cas. Moi, déjà... Première chose, je trouve ça très intéressant, tout ce que tu as dit vis-à-vis de, c'est cet apport en fait chirurgical, biomécanique, que je trouve très intéressant. Il y a quelque chose quand même sur lequel j'espère, enfin on en a discuté un peu auparavant, donc du coup je pense qu'il faut quand même éviter de faire peur aux gens. C'est, on a cette impression quand tu en parles, quand tu en as parlé, que l'usure va être, irrémédiable au fur et à mesure de sa vie, etc. Oui. Que ça va être terrible, et donc du coup peut-être qu'il faudrait carrément arrêter de faire n'importe quel mouvement parce que on va qu'accélérer les choses. Et je pense qu'on est plutôt d'accord là-dessus. En fait, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il vaut mieux, au contraire, bouger pour éviter de créer ces pathologies à long terme.
Complètement. Irrémédiable, mais pas forcément terrible. Mm. C'est-à-dire que réellement, le pire ennemi du dos, et ça, je profite qu'on est deux sportifs, je suis avec deux sportifs, il faut bouger. Mm. Le pire ennemi du dos, c'est la sédentarité. C'est réellement ça. Mmh. C'est-à-dire que, et là, le meilleur exemple, c'est de dire le gars qui va à la salle de sport, parce que, attention, vous vous adressez à des gens qui sont soit des sportifs confirmés, soit des gens qui sont des sportifs amateurs, qui vont à la salle de sport une heure, deux fois par semaine, mais qui passent 8 heures par jour assis. Alors oui, ils peuvent se faire mal, mais c'est les 8 heures par jour assis.
La faute à qui, ouais.
Voilà, 8 heures par jour assis, déjà, on perd 3 ans d'espérance de vie, selon certaines études, etc. Après, ça a discuté, Mais oui, on perd des points de vie et puis on perd des capacités. Hein. Ouais, donc, il faut bouger.
C'est important de rappeler que, ouais, effectivement, la dégénérescence est inéluctable, voilà. Mais qu'effectivement, le mouvement va renforcer toutes les structures de l'organisme et que, globalement, rappelons aussi qu'effectivement, on se fait plus mal au dos assis devant son ordinateur qu'en soulevant des trucs lourds.
Oui.
C'est, pour moi, c'est très important parce que c'est vrai que ça a été une part non négligeable aussi des débats. C'est carrément, il y a des gens qui ont dit bah, « En fait, il faut arrêter de faire du soulevé de terre ». Et je pense que c'est vraiment le pire conseil qu'on puisse donner en fait, aux gens, c'est de dire arrêtez de bouger votre dos, comme ça vous le préserverez. Non, on en est revenu quand même de cette vision-là, qui a été historiquement, il me semble, défendue, mais qui maintenant, notamment dans le cas de pathologies type hernie discale, etc., on disait aux gens surtout arrêtez de bouger. Et en fait, on s'est rendu compte, tu me corrigeras si jamais j'ai tort, mais que c'était vraiment le pire conseil à donner et qu'on a ruiné la vie de certaines personnes.
Tu sais ce que disait Winston Churchill quand on l'interrogeait sur son incroyable longévité. Quel est ton secret ?
No sport.
C'est vrai.
Bon, évidemment, c'est le pire conseil qu'on puisse donner. N'écoutez pas Winston, c'est une exception.
C'est une exception qui, en plus, avait fait du sport durant sa jeunesse.
En plus, c'était pas vrai.
Oui, c'est ça. Donc, bref. Mais du coup, maintenant, je pense que c'est bien, effectivement, il y a quelque chose dont on voulait un peu parler, c'est définir ce que c'est qu'un dos rond.
Oui.
Alors, qu'est-ce que c'est qu'un dos rond ? Déjà, quand on parle de dos, il y a trois courbures, généralement, quand on parle d'un dos naturel. On parle d'une lordose au niveau cervical, d'une syphose au niveau thoracique et d'une autre lordose au niveau lombaire.
Donc un creux pour clarifier, voilà. Un creux au niveau du cou, un creux au niveau des lombaires des reins et une bosse au niveau du milieu du dos, voilà. Pour faire très simple.
C'est ça. Et en fait, on considère que ce sont les trois courbures à peu près naturelles d'une colonne vertébrale, quand on se tient debout, évidemment.
Pour moi, il faut savoir que je suis issu de la formation des années 90-2000, où on nous expliquait qu'il fallait effacer ces courbures lombaires. C'était comme ça qu'on nous formait. Hein. Donc, ouais. Il faut bien mesurer aussi le poids de ma génération et de les générations d'avant, ouais. Dans le débat actuel, où on t'expliquait qu'il fallait faire un développé couché dos ouais. Complètement aplati sur le banc, si possible les jambes relevées, que tout ce qui se faisait en squat et à plus forte raison en soulevé de terre se faisait le dos le plus droit possible. Et donc, finalement, cette notion de dos plat n'était pas seulement un abus de langage, c'était vraiment une chimère qu'on poursuivait.
Il y avait, moi, je me souviens, dans l'ancienne salle où je coachais, il y avait un banc qui date de cette époque-là, et en fait, il y a un repose-pied en l'air. C'est-à-dire que vraiment, il y avait un repose-pied pour avoir le dos le plus plat possible. Donc, c'était même intégré structurellement dans les équipements. Je trouve ça assez fou. Mais maintenant, quand on parle de dos rond dans la question, notamment du soulevé de terre, mais on peut aussi en parler dans le squat, etc. Bref, en tout cas, tous les exercices où il faut faire un minimum travailler à la barre, on va dire, on parle d'une lordose lombaire, donc du creux du dos, qui en fait passe en syphose, qui s'arrondit un peu. Et ça, c'est très important de comprendre ne serait-ce que ça. Et moi, j'aimerais bien parler de quelque chose à ce niveau-là, c'est qu'il y a plusieurs degrés de syphose lombaire.
Peut-être juste avant d'aller là-dedans, ouais. Excuse-moi de te couper, on y revient tout de suite, mais on exclut là dans notre débat, du coup, en disant ça, toute la partie supérieure du dos où on enroule au niveau de la syphose.
Voilà. Ouais. Voilà.
Donc, pour répondre à la question qui va être posée dans le chat, c'est sûr, elle va être posée, puisqu'elle m'a été posée peut-être 400 fois dans le chat sur mon post sur Instagram, on parle bien de la zone lombaire, et on se concentre là-dessus. Le reste, pour moi, n'est même pas sujet à discussion, à débat ou à précaution. Il n'y a pas suffisamment de tension, pas suffisamment d'enjeux.
Je suis bien d'accord. Et en fait...
Et Stéphane acquiesce, vous ne le voyez pas, mais je le vois.
Et en fait, il y a plusieurs degrés de syphose lombaire. Et ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que quand on parle, il y a souvent des personnes qui parlent d'un dos en neutre, d'accord, qui disent, voilà, j'ai pas le dos en lordose, j'ai le dos neutre. Donc, en fait, qui mettent un dos plat, on est déjà à un certain degré de syphose lombaire. On doit être à quelque chose, très approximativement, comme au moins la moitié de notre capacité. Et en fait, quand on commence à voir un dos qui s'arrondit, donc même légèrement arrondi, on est à, selon, dépendant des chiffres, des études, etc., entre 60 et 75% de la syphose lombaire maximale. Et donc, quand on voit un dos qui s'arrondit vraiment assez conséquemment, on n'est pas loin des 100%. Donc, du coup, moi, quand je parle d'avoir un dos rond, généralement, c'est déjà, on va dire, dès qu'on commence à peine à apercevoir le dos qui s'arrondit, pour moi, on peut déjà parler d'un dos rond de façon conséquente. Et ça, c'est vraiment très important parce que à chaque fois que j'en parle, il y a des gens qui vont me dire « Mais non, mais là, tu abuses, le dos, il est neutre, etc. » Je dis « Mais non, si on voit déjà, ne serait-ce qu'à peine une courbure, le dos est rond, en fait. »
Oui, et inversement, il y a tout un tas de gens qui vont t'interpeller en disant « Non, non, moi, je fais le dos plat. » Et en réalité, ils sont en enroulement.
Oui, oui. Et c'est exactement ça. Et c'est très important. Et en fait, ça, une fois qu'on a compris ça, déjà, on a compris beaucoup des choses par rapport à ça, et on peut s'entendre dessus, parce que comme on dit, si on définit pas les choses correctement, après ça va être difficile de s'entendre dessus. Donc je crois que c'était Albert Camus qui disait, qu'il y avait une citation comme ça autour de ça, qui disait quelque chose du style le mal dans le monde vient en grande partie des choses qui ne sont pas définies clairement. Si ça se trouve, c'est apocryphe et on va me tomber dessus, mais en tout cas je
c'est
pense
pas grave, en tout cas c'était une bonne punchline.
C'est ça. Et du coup, dans l'idée, voilà, déjà première chose à ce niveau. Voilà. Et ensuite, on va un petit peu développer par rapport à ça au niveau de la recherche scientifique. Alors, déjà, j'aimerais bien reprendre par rapport aux avocats du dos droit en toutes circonstances, qui diraient que ça limite les blessures. Ça vient beaucoup, beaucoup, beaucoup d'études qui ont été faites sur des cadavres de porcs. Donc on a beaucoup de modèles en fait animaux qui ont servi à déterminer que comment est-ce qu'en fait une hernie pouvait se former. Mais les gens ont relativement mal interprété ces études-là, puisqu'en fait ces études-là montrent juste que à force d'usure, donc sur des on n'a pas non plus une tonne de vertèbres, quoi. Donc on prend deux vertèbres, on les use comme ça, eh bien on va avoir des hernies qui vont se former. Et donc finalement, la chose pour laquelle c'est vraiment intéressant ces études-là, c'est de se dire où est-ce que ça va se former quand on actionne deux vertèbres les unes après les autres avec une compression mécanique qui est toujours standardisée, etc. Mais ça ne dit pas si c'est le mouvement quand on a refait la flexion ou quand on a fait l'extension qui a joué. Ça ne dit pas en fait exactement les conditions. Et surtout, ça ne peut être qu'indicatif de la façon dont ça se fait, mais ça ne peut pas être indicatif de comment ça se comporterait chez des humains, puisqu'il n'y a pas tous les tissus autour, il n'y a que les vertèbres, et en plus, il n'y a pas l'adaptation biologique autour de ça. On est un organisme vivant. On ne va jamais faire 12 000 flexions en un jour. Enfin, je pense, hein, après, on pourrait argumenter pour ceux qui font, par exemple, de l'aviron, des choses comme ça, ils en font quand même un peu plus que les autres, etc. Mais je ne pense pas qu'on soit sur l'ordre de ce qu'il faut pour générer ces hernies-là.
C'est vrai. Alors, il y a quand même un tout petit... Je suis complètement d'accord avec toi, hein, mais il y a quand même un petit contre-argument qui est important. C'est que il y a quand même une contrainte cumulée sur le dos.
Oui, oui, bien sûr.
Et que le, comme on le rappelait tout à l'heure, finalement le soulevé de terre est la petite cerise sur le gâteau, le pompon sur la Garonne, qui vient parfois sanctionner une journée entière de contraintes assises, de personnes qui sont vautrées toute la journée. Et donc, ben finalement, peut-être que tes centaines de répétitions, tu les as d'une autre manière, tu vois. Donc là-dessus, il faut quand même être prudent.
Tout à fait. Et même, je dirais, pour aller encore plus dans ce sens-là, je dirais que finalement, comme on en parlait, peut-être que ça a un intérêt du coup de faire ce soulever de terre-là pour être capable d'encaisser les contraintes qu'on va mettre tous les jours en restant, on va dire, en position sédentaire ou en, voilà. Ça va peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on remarque assez souvent au niveau du sport, c'est que faire du sport sur une courte période, va permettre derrière d'augmenter la résilience des tissus pour être mieux et moins se blesser dans la vie de tous les jours. Et ça, pour le coup, je trouve ça assez intéressant de le mettre en avant aussi pour le dos rond. Maintenant, ce qu'on remarque du coup dans la littérature scientifique, c'est plusieurs choses. Déjà, on n'a pas forcément d'incidence au niveau des blessures chez personnes qui font du travail à l'usine, des choses comme ça, et qui courbent le dos. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, les manual workers, ils appellent ça dans les études scientifiques, donc c'est-à-dire les gens en fait, qui font du travail manuel et qui courbent le dos, eh bien, on ne peut pas faire des études, entre guillemets, où on va dire aux gens, toi tu vas courber le dos, toi tu ne vas pas courber le dos. Donc ce qu'on fait, parce que ce ne serait pas éthique, si jamais on a un soupçon qu'il y en a un ou l'autre qui va générer plus de blessures, on peut pas faire se blesser les gens. Donc non, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde.
Ça marche mieux sur les cadavres de porc.
Voilà, c'est ça.
C'est plus acceptable.
C'est ça. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on dit aux gens, on fait en sorte de regarder les gens qui ont naturellement plus tendance à courber le dos et ceux qui ont naturellement plus tendance à plier les jambes et à garder le dos plat. Et on regarde, en fait, si ils ont plus de blessures l'un ou l'autre. Et on remarque pas plus de blessures dans un groupe que dans l'autre. Il peut y avoir plein de biais autour de ça, bien sûr, mais déjà, ça donne un indice. Après, on a d'autres études qui montrent que quand on tire avec un dos rond, on a plus de force que quand on tire avec un dos en lordose. Et plus on a... Alors évidemment, les chercheurs n'ont pas fait une flexion lombaire maximale. Donc, il y a eu trois conditions.
Ils ont autorisé un enroulement du dent.
Voilà, exactement. Ils ont autorisé un enroulement du dent et ils ont remarqué. Et là, c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait des contractions certes isométriques, mais maximales. Donc, on n'est pas sûr. À chaque fois, j'ai des gens qui viennent voir et disent « Mais non, mais c'est fait sur des toutes petites charges. C'est pas représentatif d'un soulevé de terre. » Contrainte isométrique maximale quand les gens tirent sur des chaînes. Certes, même si ce ne sont pas des sportifs très, très entraînés, on a quand même quelque chose qui est
un peu plus solide. À leur niveau, c'est une intention maximale de force.
Exactement. Et donc, du coup, on remarque qu'ils ont plus de force. Alors, les chercheurs avancent une hypothèse comme quoi ce serait lié à la position des sarcomères dans le dos. Ils disent que, grosso modo, les sarcomères seraient plus en position de force à ce niveau-là.
Bon, ce qui est intéressant, parce que ça, c'est un débat intéressant, parce qu'effectivement, ce qu'on nous véhicule depuis la nuit des temps dans les formations jeunesse et sport, c'est que, d'un point de vue purement mécanique, une colonne vertébrale alignée permet de générer, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, je n'importe quoi, deux fois plus de force qu'une colonne vertébrale enroulée. Bon, qu'en pense le chirurgien ?
Bah, il faut aussi considérer que... Alors qu'il y a, aussi la notion du moment de la force, c'est-à-dire quel est ton bras de levier.
Voilà.
Et forcément, ton bras de levier, bah, il est plus important. Tu dois développer une force plus importante pour pouvoir soulever la même charge.
Alors.
Et t'as ça, et puis après, tu dois recruter plus. C'est le principe de la sangle. Si je veux monter un muret, je monte le muret sans mettre la main sur le quadriceps. Je ne vais pas développer la même force que si je le sangle. Tu dois développer un peu plus de force et donc tes fibres musculaires ne vont pas se comporter de la même façon aussi.
Et donc, quelque part, on en revient au potentiel de force de la personne en question. Et c'est là que c'est vraiment important. C'est-à-dire que ce qui a le dernier mot à la fin, c'est la capacité à vraiment générer de la force pour te protéger en réalité et réaliser la tâche qui t'est imposée en toute sécurité. Et c'est ça la question fondamentale que les gens doivent se poser. Est-ce que véritablement je suis capable de le faire ?
Alors, j'aimerais juste revenir parce que je pense que tu as tout à fait raison. Et il y a juste un truc sur lequel j'aimerais revenir vis-à-vis de l'interprétation de cette étude parce que je la trouve particulièrement intéressante et aussi au niveau des bras de levier. C'est-à-dire que, pour le coup, le bras de levier est avantageux quand on a le dos courbé, justement parce qu'on rapproche un petit peu.
On le rapproche un petit peu.
Et du coup, dans l'idée, je suis totalement d'accord avec toi. Après, du reste, c'est... véritablement une question de comment est-ce qu'on se positionne, etc. On a plus de force. Moi, je trouve ça assez fou de voir que ça se retrouve dans la recherche et qu'on a aussi, en fait, si on regarde bien, et alors là, c'est assez génial sur le terrain, si on regarde bien, et je vous invite tous à aller regarder des champions. J'ai vu assez récemment le premier homme, Aurélien Lejeune, qui a tiré 400 kilos, le premier français qui a tiré 400 kilos. Regardez la position de son dos quand il tire. Et vous remarquerez qu'en fait, dès qu'il se met à tirer, son dos naturellement s'arrondit un petit peu. Et en fait, c'est ce qu'on remarque un petit peu dans tous les soulevés de terre conventionnels, pas les soulevés de terre sumo, c'est encore une autre chose, mais dans tous les soulevés de terre conventionnels, on va voir chez les grands champions, un dos qui s'arrondit même un tout petit peu. Et du coup, trouver ce résultat scientifique qui est corrélé en fait à une observation qu'on peut faire de terrain, je trouve ça génial et je trouve que ça permet aussi d'un petit peu mieux affiner la compréhension des choses. Et ça me fait penser du coup...
Bon, précision quand même, Aurélien qui fait un soulevé de terre très conventionnel et qui s'autorise... Effectivement, un enroulement du dos, mais il ne fait effectivement pas, par exemple, la vidéo que j'ai postée récemment, là, je vous invite à aller la voir, où là, on est délibérément sur un mouvement enroulé du début à la fin. C'est évidemment pas le même exercice non plus.
Exactement. Et en fait, là-dessus, j'aimerais bien, c'est bien, ça me permet d'expliquer ça. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui a été remarqué par les coachs powerlifters, notamment en Amérique, qui ont souvent tendance à être un petit peu en avance par rapport à nous, c'est qu'en fait, quand ils arrondissaient un petit peu le bas du dos, bah ils avaient tendance à être un peu plus forts. Donc, ils ont commencé à s'entraîner là-dessus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que lors de leur compétition, ils cherchent absolument à arrondir de fou le bas du dos. Ce qu'ils cherchent à faire, c'est de tirer avec le plus de force possible. Et donc, ils ne s'encombrent pas, en fait, finalement, de se dire « mon dos va être droit ou pas droit ». Ils essaient juste de chercher leur position de force. Il s'avère que la plupart du temps, ce qu'ils ont remarqué, c'est que c'était quand ils avaient un dos qui était un peu plus arrondi que ce qu'on leur avait recommandé au début de leur carrière. Et donc, du coup, ils sont passés à ces positions-là. Mais pour s'entraîner à ça, ils ont mis en place des exercices comme le Jefferson Curl, par exemple, où il va y avoir un enroulement complet du dos, mais pas aux mêmes charges. Et effectivement, que leur soulevé de terre classique, puisque de toute façon, le Jefferson Curl, par définition, c'est finalement quoi ? C'est un soulevé de terre en déficit. Avec les jambes tendues, donc nécessairement on n'aura jamais autant de force que sur un soulevé de terre classique sur lequel on arrondit le plus le bas du dos. Ça permet du coup de préparer ces structures pour ensuite être capable d'être préparé à un soulevé de terre avec un dos légèrement plus arrondi.
En plongeant dans notre univers, tu as découvert le Jefferson
Curl. J'ai découvert aussi.
Je ne savais pas forcément qu'il s'appelait comme ça, évidemment.
Et alors, ce que j'ai regardé sur les soulevés de terre un peu extrêmes, c'est-à-dire quand on va au record, c'est un peu comme dans tout sport, quand on va à la performance, quand on va au record, la technique, elle fait un peu défaut. Parce que la force passe au-dessus. Je prends l'analogie du tennis. Si vous regardez Kyrgios ou si vous regardez récemment Manarino qui a lâché des caisses énormes en coup droit, techniquement, c'est juste ignoble. Ça n'a rien à
en
voir.
En tout cas, il ne respecte pas les canons que tu apprends à l'école de tennis.
C'est ça.
Complètement pas.
Perpendiculaire au filet.
C'est vraiment c'est la décontraction totale, le relâchement complet. Et ça part, et voilà.
Et ça part.
Ouais. C'est super, ça fait un petit short sur YouTube, c'est magnifique. C'est le public adore. Par contre, on ne va pas t'apprendre ça tout le temps à l'école. On ne va pas te dire,
ton coup droit... On ne peut certainement pas commencer par ça.
Commence, voilà, fais les bâches et puis voilà.
Je suis vraiment d'accord avec ça. Je suis désolé de t'interrompre. Alors, je pense que tu n'as pas fini, mais je suis vraiment d'accord avec ça. C'est que, pour moi, tout est question de progressivité, d'adaptation à ta propre technique. Et c'est vrai que, certes, si on doit standardiser la technique pour tout le monde, évidemment qu'on doit partir d'une base qui semble un peu plus correcte. Mais moi, je le remarque notamment dans mon art martial, le kendo. C'est-à-dire que quand on a tendance à être un petit peu trop sur la technique et de se dire « il faut que j'ai une forme parfaite », etc., eh bien, on perd justement en force. Et un des auteurs que j'aime le plus par rapport à ça, qui parle d'auto-organisation du corps par rapport à la contrainte, c'est Franz Bosch, que je conseille à tout le monde de lire. C'est vraiment hyper intéressant et qui, en fait, parie sur le fait que le corps va réussir à s'auto-organiser pour produire le résultat qu'il veut. Et en fait, qui dépasse ces notions de technique. Pour autant, et c'est là que je te rejoins, pour moi, il faut quand même avoir bossé plein d'éléments techniques auparavant pour justement avoir la résilience des tissus, pouvoir se permettre, on va dire, ces extravagances-là.
Ouais, c'est marrant, le danger, c'est la... J'oublie pas que tu es au milieu d'une phrase. Hein. Mais le danger, c'est le raccourci de ça. C'est-à-dire qu'un expert peut dire ça. Et le danger, c'est quand on commence à entendre la technique n'existe pas, du coup. Et que, in fine, et on l'a beaucoup dans le milieu de la prépa physique universitaire notamment, puisque c'est beaucoup de gens qu'on peut pratiquer, qui arrivent très vite à des niveaux de responsabilité très élevés, et du coup ça les arrange, ce type de discours-là, tu vois. Et ils vont s'emparer de ça, je pense notamment à certains cadres Action Type ou des gens comme ça, qui vont sauter sur l'opportunité de pas avoir à être expert en haltérophilie, en force athlétique, en athlétisme, en kettlebell, en tout ce que tu dois apprendre pour être fort en préparation physique, et dire, de toute façon, autorégulation des trucs, la technique n'existe pas, autant qu'on laisse les fesses faire, quoi. Et là, je dis attention, parce qu'effectivement, je te rejoins, il y a toute une adaptation déjà structurelle qui passe par tout un tas d'étapes. Et ensuite, des adaptations techniques, culturelles, d'entraînement, des réflexes posturaux, des repères d'appui, tout ça qui sont de l'ordre de l'expertise fine, en fait, et qui vont se développer au fur et à mesure. On parlait de musique hors antenne tout à l'heure, mais évident qu'à un moment donné, on va être obligé de passer par des gammes. Quel que soit l'angle d'attaque, il est évident qu'on va être obligé de passer par un nombre d'automatismes qui nous permettra après de faire du freestyle, qui nous permettra après de nous libérer de ça. Et l'expertise, en fait, c'est ça.
Et d'ailleurs, mais ça me permet de rebondir, c'est Rob Gray qui en parle bien dans son livre justement sur, s'appelle How We Learn to Move. Encore une fois, un livre super qui dit que en fait, l'auto-organisation, c'est top. Et lui, il est à fond sur l'auto-organisation, mais que comme il y a des attracteurs et des fluctuants, si jamais on peut très bien se faire attirer dans une posture qui n'est pas la plus efficiente possible, dans un mouvement qui n'est pas le plus efficient possible, et ne pas réussir à s'en sortir, et du coup, eh bien, ne pas avoir la technique optimale, en fait. C'est pas parce qu'on s'auto-organise qu'on a du coup une solution qui nous convient. Au niveau de nos...
Spontanément,
voilà, c'est ça. Quelle sera la meilleure? Et c'est là où vient l'expertise du coach, justement, qui va pouvoir passer par des méthodes pour promouvoir l'auto-organisation, mais qui en même temps
adaptées,
devront...
Spécifiques
et qui devront diriger vers un mouvement technique plus efficient. Et c'est tout notre job, en fait. Notre job, c'est de faire quoi? C'est d'essayer de diriger les athlètes vers le plus efficient.
Et là, si Stéphane, il se rappelle de la fin de sa phrase, franchement, chapeau.
Désolé.
Oui, non, c'est... moi, ce dont j'avais l'impression, c'est que quand on cherchait en fait à rapprocher effectivement la barre de soi, parce que visiblement, D'ailleurs, j'ai regardé un petit peu les gros fails de Doron et les gros fails de soulevé de terre. Globalement, il y a la personne qui va pas avoir un bon ancrage de hanche,
On revient à notre introduction.
Ça, c'est parce que ça, ça a l'air d'être un point, enfin, pour moi aussi, d'un point de vue purement mécanique, extérieur, médical, capital. On veut rapprocher la barre au maximum de soi. Donc, effectivement, c'est sûr que si j'enroule un petit peu, bah, je rapproche la barre. Elle va frotter un peu plus le long de mes tibias, de mes genoux. Parce que logiquement, on ne porte pas de genouillère, je crois. Mais voilà, je fais tout pour la rapprocher. Et j'ai la sensation, vous m'arrêtez là, par contre, c'est une vraie question. Quand on fait un dos rond, est-ce que vous cherchez à avoir... Il y a ce petit mouvement que vous faites au début, qui est, ils appelaient ça le slack. Voilà. Est-ce qu'on ne cherche pas à récupérer, en ayant un peu plus de hauteur par rapport à la barre avec le dos rond, de récupérer un slack un peu plus important, et du coup un peu plus de rebond cinétique pour, nous, pour lancer le mouvement ? Pour avoir ce gain de force, vraiment pour, je vais chercher à perf, je vais chercher...
En générant un peu plus de mouvement.
Un peu plus de mouvement.
Peut-être, mais moi, ce que je pense, c'est qu'on peut l'avoir même avec un dos un peu plus, entre guillemets, droit.
Oui, oui. Ce rebond cinétique, tu l'as aussi avec un dos.
C'est ça. Moi, je pense vraiment que la chose qui vraiment fait la différence, pour le coup, c'est cette différence de force, en fait, minime, mais quand même qui devient importante à haut niveau, c'est-à-dire, en fait, ce bras de levier qui est légèrement moins important, comme il y a une courbure, et ce légèrement moins important-là, ça fait la différence, en fait. À très haut niveau, quand on veut soulever des barres qui font 400, 500 kilos, ça devient vraiment important. Hein. Pour rappel, parce que c'est vrai qu'on n'a pas forcément la notion de ça, même quand on est dans les sports de force, les gens qui ont dépassé en conventionnel, homologué, etc., 500 kilos au soulevé de terre, il y en a deux sur terre. Voilà, et je veux dire, c'est pas dépassé de beaucoup. Hein. On est sur une barre à 500, une barre à 501. Voilà. Ouais. Donc du coup, et les gens qui sont à 400 kilos, c'est pas...
Le gabarit de ces personnes
gigantesque, ce sont des strongmen. Donc voilà. After Bjornsson, il doit faire un truc comme 2,5 mètres. Juste comme ça, voilà. Donc en fait, on n'est pas sur des gens qui sont le commun des mortels. Et même une barre à 400 kilos, je suis pas sûr que homologué, il y en ait plus d'une centaine sur Terre. Donc c'est beau.
Ça reste, alors si je me place purement d'un point de vue médical, un point important, c'est-à-dire que est-ce que tout le monde peut se le permettre ? Et pourquoi est-ce qu'on le fait ? quel est l'objectif en fait ? Parce que si l'objectif effectivement c'est d'aller chercher la perf quand on est performeur, bon, pourquoi pas avoir un entraînement résistance, de faire des Jefferson, etc. pour acquérir la capacité de l'encaisser de façon ponctuelle. Ce qui me paraîtrait par contre, faut être prudent, c'est que je reviens à la personne que vous allez coacher qui fait une séance par semaine ou deux, qui se réhabilite. Lui, il va peut-être falloir
qu'il s'habilite.
Je pense que c'est plutôt ça. Hein.
Il faut peut-être, pour le coup, que déjà il bosse sa technique, qu'il place ses pieds correctement, qu'il place ses hanches, et surtout qu'on lui dise, attention, toi, tu ne dois pas chercher à avoir le kilo en plus. Que ta barre elle fasse 150 ou 160, parce que c'est déjà pas mal. Enfin, j'imagine quand même que...
Oui,
voilà,
pour un débutant, oui, tout à fait. Hein, intermédiaire.
Voilà, est-ce qu'il a nécessité d'aller faire un dos rond pour chercher 165 kilos, ou est-ce qu'il peut juste renforcer la musculature postérieure, renforcer ses fessiers pour passer ça et progresser?
Alors pour moi, et alors là on va rentrer vraiment dans mon approche à ce niveau-là, c'est pour moi, dès qu'on va commencer à parler de soulever de terre, il y aura toujours un intérêt à intégrer des exercices qui vont faire travailler le dos rond. Pour une raison toute simple, c'est qu'en fait, à une intensité relative haute, comme le corps va avoir tendance à s'auto-organiser, en fait, on va plus faire attention véritablement. On ne pourra plus faire attention à notre technique si on veut soulever plus lourd, puisque c'est ce qu'on remarque. Hein. C'est-à-dire que quand on a des consignes externes, on peut soulever plus lourd. Si on se focalise sur l'interne, on soulève moins lourd, parce qu'en fait, eh bien, on se focalise sur autre chose. Eh bien, du coup, le dos va nécessairement un peu s'arrondir. Et à partir de là, il y a deux solutions. Soit on est préparé à ça, et donc du coup, on a nos structures qui sont suffisamment renforcées. Soit on n'y est pas préparé. Et ça peut passer ou ça peut casser. On limite, dans les deux cas de figure, ça peut passer ou ça peut casser. Mais on limite quand même plus les risques si on s'est habitué progressivement à avoir du dos rond, même en n'ayant pas une intensité aussi importante que lors de soulever de terre, si on l'a déjà travaillé. Et moi, c'est toute ma chose à dire, c'est qu'en fait, comme on ne peut pas éviter l'arrondissement du rachis lombaire quand on fait des soulevés de terre, c'est impossible si on le fait à une suffisamment haute intensité, eh bien, relative, hein, j'entends, eh bien, autant travailler le dos rond au moins sur quelques exercices.
Alors, c'est vrai que ça exclut quand même, dans ta définition, ça exclut quand même le public dont parlait Stéphane tout à l'heure, qui, même relativement à leur niveau, n'iront jamais sur des intensités aussi élevées que quelqu'un qui pratique régulièrement. Parce que relativement à leur niveau, ne serait-ce que technique, ils ne sont pas capables d'arriver ne serait-ce qu'à 60% de leur potentiel réel de force qu'ils pourraient utiliser s'il fallait en survivre. Donc, du coup, on est dans des gammes de charges extrêmement contenues, que ce soit dos rond ou dos plat d'ailleurs. Donc forcément, proportionnellement, la gamme de charges qu'on préconiserait dos rond est finalement proche de rien, quoi, du poids de corps.
Pour moi, ce qui va être, de toute façon, pour ces populations-là, du coup, même si elles n'y ont jamais très très haut, du coup, je pense quand même qu'il y a un intérêt à intégrer du dos rond, mais du coup, forcément, elles feront du dos rond avec beaucoup moins de charges. Et je pense que ça peut être quand même intéressant parce que du coup, ça les déculpabilise par rapport à tout ce discours ambiant qui a tendance à dire « si jamais tu veux nouer tes chaussures, il faut absolument que tu gardes ton dos plat ». Et donc, même dans cette optique-là, ça a quand même un intérêt de mettre certains exercices dos rond. Mais évidemment, et ça, c'est un peu la conclusion aussi de la revue de la littérature de Howe et Lehmann, qui sont des spécialistes pour le coup de la question et qui parlent expressément de cette question-là, c'est qu'ils disent tout dépend de l'expertise du coach et tout est à laisser au choix du coach vis-à-vis des contraintes spécifiques de la personne. Et pour moi, on est typiquement là-dedans, en fait. On est typiquement dans il faut prendre des décisions intelligentes par rapport aux objectifs de nos coachés.
Ça, c'est crucial ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on l'Internet, les réseaux sociaux, la baisse de qualité des formations. Beaucoup de choses font qu'on perd de vue l'expertise du coach dans tout ça et dans ce débat, en fait. Et que dans l'absolu, il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'on avait mal défini les termes. Là, on les a peut-être ralliés d'une certaine manière à notre discussion d'aujourd'hui. Et il y a beaucoup de gens qui sont contre parce qu'ils savent très bien que derrière, en fait, on parle à des gamins de 15, 16 ans, 20 ans qui vont reproduire bêtement, excusez-moi les gars si vous avez 15-16 ans et que vous reproduisez ce qu'on montre, mais des fois c'est sans réfléchir que vous allez reproduire ce qui vous inspire ou ce qui inspire confiance par ailleurs. Et donc c'est vrai que l'expertise du coach là elle est importante parce que c'est lui qui va dire si, le Jefferson Curl c'est un très bel exercice, évidemment que c'est un très bel exercice, mais sous réserve d'une charge maîtrisée, d'une technique progressive et maîtrisée.
Progressive. Progressivité, c'est vraiment le plus important.
Et puis, de mon point de vue, on a tout un tas d'objectifs qui viennent se confondre là. C'est-à-dire que on revient au pourquoi. On revient au pourquoi, puisqu'on sait qu'il y a un risque. On sait qu'il y a un risque. Donc, la question, c'est on prend des risques. Hein. Quand on fait du sport de haut niveau, faire du triple saut, c'est pas 20 fois par jour, c'est pas une bonne idée. C'est pas bon pour la santé. Faire du judo, se faire projeter à plat dos 100 fois par entraînement, c'est pas une bonne idée. Faire du volleyball, sauter 200 fois et s'écraser alors qu'on saute en plus à hauteur de filet et qu'on fait 100 kilos 200 fois par entraînement, ça n'est pas une bonne idée. Mais voilà, on fait un truc qui nous fait vivre, qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux, qui nous fait kiffer. Et ça, en soi, c'est une bonne raison. Et puis surtout, on va chercher la performance. Donc, à un moment donné, on va prendre un certain nombre de risques. Donc, c'est toujours pareil. On va mettre des risques en face de bénéfices. Et si ça vaut le coup, on les prend, ces risques. Et si ça ne vaut pas le coup, ben on les maîtrise, on les modère, voire on ne les prend pas du tout. Alors, je suis d'accord avec toi, pas prendre de risques du tout sur un enroulement du dos, ben c'est absurde quelque part, parce qu'un jour ou l'autre, on va s'y retrouver. Et un jour ou l'autre, eh ben on risque de se faire, alors, pas une hernie discale, parce qu'on l'a dit, c'est quelque chose qui est plus lié à la répétition, mais plutôt à l'imbago, plutôt une blessure bête qui va nous bloquer pendant 2 semaines, 3 semaines, ou créer une sciatique. Bon, effectivement, il faut éduquer, nous, dans le sport santé, les gens à faire cette mobilité-là. Maintenant, de là à basculer dans ce qu'on voit un peu d'extrême en ce moment sur les réseaux, à remplacer le soulevé de terre contrôlé, et j'en viens à mon ultime point que je voulais déployer, c'est le contrôle. Et tu l'as utilisé, le mot, et toi aussi, Stéphane. Ouais. Vous avez utilisé ce mot « contrôle ». C'est le dernier bastion de la définition du dos rond et du dos plat, en fait, qui risque de rassembler encore beaucoup d'auditeurs, c'est que faire un dos rond passif sur une charge en chaîne fermée, c'est là qu'on s'inquiète. c'est on lâche tout et d'un seul coup, là, par contre, on n'a pas lâché la barre. Et là, on se retrouve dans des contraintes excentriques ou pliométriques, si on est dans un mouvement très dynamique, complètement hors de contrôle. À l'inverse, ce que tu décris depuis tout à l'heure, Gaïs, bah effectivement, enrouler un petit peu un dos qui est ultra tendu, ultra contrôlé, ultra activé, appuyé sur les organes de la respiration, appuyé par une mécanique du mouvement maîtrisée, par une saisie qui ferme la, qui enferme la force, hein, des appuis hyper contrôlés, etc. Bon, bah, okay, on a peur de quoi juste, tu vois, on n'est pas, en plus, on n'est pas en hyperflexion non plus. Enfin, bon.
Tout à fait.
La notion de contrôle, elle est capitale. Et la notion de contrôle, moi, quand je vois les vidéos, il y a une chose qui me fait peur, c'est la descente. On parle de soulever de terre.
Oui.
C'est la repose, à terre.
C'est la repose à terre. Et la repose à terre, c'est là où on lâche tout. Et c'est là où on va se blesser aussi énormément. Et je suis presque. Alors, je vais me faire taper dessus, mais je suis presque étonné qu'il n'y ait pas de notes techniques. Ouais. Ça serait cruel, mais...
Ça mériterait un peu, t'as raison, parce que on voit souvent un mouvement abrégé à la fin.
Ouais. Et je lâche.
T'as fait une belle série, tout dos droit, bien placé, contrôlé.
Et puis à la fin, tu lâches. et là,
j'ai fait sun curl à ton max du max.
Si je prends mon biceps, que je prends une haltère, que je fais des répétitions et qu'à la fin, j'ai l'haltère contre mon épaule et je laisse tomber, bah, je ne vais pas apprécier. Mon tendon du biceps, il ne va pas apprécier. Ouais. Et c'est pareil pour le dos. Et... Je vois la différence par rapport à l'haltérophilie classique où effectivement, tu as la barre en l'air, tu la lâches, qu'est-ce que tu vas relâcher? Tu la poses devant.
Tu disparais, toi, c'est tout.
Voilà, tu disparais. Par contre, là, tu l'as en main, et sauf que cette barre qui va faire 200 ou même plus,
va exploser
les contraintes. Et la descente, quand j'ai vu vraiment les vidéos, la descente, je me suis dit, à chaque fois, je me dis, waouh, ça fait mal.
On pourrait partir sur tout un débat parallèle sur à quel point. Moi, je trouve que la pliométrie est négligée chez beaucoup de sportifs de force. Et je trouve que pour le coup,
inexistante.
Voilà, c'est ça. Et ils se renforcent pas de cette façon-là, alors que pour autant, bah, n'importe quoi peut arriver, encore une fois. Et je pense qu'ils pourraient gagner à ça. Enfin, et on est d'accord que tout ce qui va nécessiter, notamment powerlifting, beaucoup de force, doit nécessairement passer par beaucoup de contrôle, ne serait-ce que parce que, en fait, plus on va être lent, plus on aura tendance à être lent, plus on pourra développer de force. Donc, de toute façon, il faut contrôler. Et oui, enfin, pour moi, j'abonderai en votre sens. Si on n'est pas préparé à ces contraintes-là, du coup, et qui sont des choses auxquelles ils se préparent jamais, ces personnes-là, oui, il faut pas faire ça. Ça me semble effectivement un peu suicidaire.
Ah, hyper intéressant. Bon, en tout cas, on avance bien dans notre discussion. Je pense que ça aide les gens qui nous écoutent à y voir un petit peu plus clair et à puis se construire eux-mêmes leur propre idée de la question. Peut-être qu'ils vont aller consulter les ressources qu'on va leur mettre à disposition, les ressources scientifiques. Rappelez-vous par rapport à ça, et je prépare aussi une petite série là-dessus, sur la science, mais aussi sur la controverse, parce que la controverse, ça revient très souvent, très très souvent. On va sortir une série spécifique avec Mathieu Delalandre, qui est sociologue en sciences du sport, spécialiste de la controverse. Et cette controverse n'échappe pas à la règle suivante, c'est qu'on se base sur des études comme si c'était...
Parole d'évangile.
Parole d'évangile. Or, il y a de la bonne et il y a de la mauvaise science. Il y a des bons, il y a des bonnes et il y a des mauvaises revues. Hein. Toutes les revues ne se valent pas et toutes les études ne sont pas publiées dans Frontiers in Physiology ou des revues de référence. Bon. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a des revues, des revues de littérature. Déjà, ça ne vaut pas la même chose qu'une étude précise. Ensuite, il y a des études précises qui se portent sur une dizaine de personnes avec un certain nombre de biais, etc. Donc, il faut prendre un peu de recul. Typiquement, sur ce thème-là, on est sur un thème où on a peu de science. On en a peu. Si vous tapez les critères de recherche dans PubMed, hein, qui est le moteur de référence, on trouve moins de 60 références. C'est epsilonesque en termes de science. C'est pour vous donner juste un ordre d'idée. Vous faites le même exercice sur l'impédance métrique, qui est quand même quelque chose de tout petit, 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 petit. Vous avez 4000 études juste sur InBody, juste sur la marque InBody. Donc vous imaginez un petit peu à quel point on a peu exploré ce sujet-là. Et donc quand on en est là, en science, il faut en revenir à des fondements de raison de bon sens et de réflexion d'experts, en fait. Il faut revenir à l'exercice qu'on est en train de faire là. Alors, on a un peu de science qu'il faut lire. Et encore une fois, on vous la met à disposition.
Et la critiquer.
Et ensuite, on la critique, on réfléchit dessus. On dit, OK, bon, bah ça, OK, c'est une info. C'est une info parmi d'autres. Et c'est là que c'est intéressant parce que, du coup, on va en revenir. Et c'est un peu mon wrap-up de l'épisode, hein, sauf si vous avez encore des choses importantes qui vous tiennent à cœur à ajouter, les gars. C'est le pourquoi et le comment. Voilà. Et une fois qu'on pose ces choses-là, quelque part, tout est possible. Quelque part, l'être humain prouve sans cesse que tout est possible. On est une machine à s'adapter. Et donc, la question, c'est le chemin, toujours. Pourquoi est-ce que je l'emprunte? Et ensuite, comment est-ce que je l'emprunte? Et c'est là que tout est à écrire. J'ai des risques à prendre. J'ai envie de les prendre ou pas. Et une fois que je les prends, avec qui je les prends, comment je m'y prépare, quel chemin je suis pour arriver en toute sécurité à faire quelque chose d'extraordinaire. Et est-ce que j'en ai besoin? Et si j'en ai besoin, alors il faut le faire. Si j'en ai pas besoin et que les risques sont trop grands, alors il faut l'éviter à tout prix. C'est aussi simple que ça. En préparation physique, par exemple, s'il n'y a pas de spécificité majeure à l'enroulement du dos dans la pratique, je vais le faire d'une manière très, très modérée. On parlait de Jefferson Curl, très, très bel exercice. C'est pour moi, d'ailleurs, c'est même plus du soulevé de terre. On va pratiquer ce genre de choses. Par contre, sur le soulevé de terre hyper lourd, on ne prend pas de risque. Il n'y a pas de péril dans la demeure. Je fais du jiu-jitsu brésilien. J'ai besoin de préparer les gens dans des enroulements de dos et des niveaux de force, des contraintes sur lesquelles ils vont être mêlés sans arrêt. Et bien, peut-être qu'effectivement, on va déployer un protocole spécial, très progressif, pour les amener à ça. Et puis finalement, c'est ça l'expertise. C'est d'être capable de s'adapter pour que notre sportif ou le patient, le client dont on a la charge, soit en toute sécurité. Et je trouve qu'on a eu un super débat, c'était vraiment passionnant. Si vous en voulez plus, on va vous mettre dans les ressources de l'épisode de quoi lire un petit peu plus. Je sais que Geek & Fit a la plume facile, donc il va venir répondre à vos questions, il viendra discuter avec nous. J'espère que toi aussi, Stéphane, tu trouveras 2 minutes pour venir enrichir les débats sur le chat et rebondir s'il y a des questions qui te sont adressées. C'est vraiment super sympa, les gars, d'avoir pris du temps pour venir partager tout ça. Et puis, si vous voulez nous aider, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez, vous partagez au maximum et puis vous commentez, posez vos questions, allez-y. Avec toujours beaucoup de bienveillance parce qu'on est tous là pour faire du sport et pour prendre du plaisir. Les gars, vous revenez quand vous voulez, vous connaissez le chemin.
Avec plaisir.
Mais oui, vraiment, franchement.
À tout bientôt pour un nouvel épisode d'ABD Podcast.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.